dont le cas de la traite de personnes en vue de les soumettre au travail forcé, différents facteurs similaires à ceux qu'on observe pour la traite de personnes à des fins sexuelles, impliquent des étrangers. Le premier facteur est le concept de la servitude pour dette, où l'on se sert d'une dette dont le montant est imposé ou change constamment. La nature du travail ne correspond pas aux attentes. On l'a surnommé Elmville 11, l'un des cas de prétendue traite de personnes en vue de les soumettre au travail forcé à Toronto. Elmville est une petite collectivité agricole à l'extérieur de Barrie, en Ontario. Dans cette affaire, un groupe de Philippins était venu au Canada en croyant, selon ce qu'on leur avait dit, qu'ils allaient travailler sur un gros brise-glace. C'était un projet important et emballant. À leur arrivée, on leur a dit que le projet de brise-glace était tombé à l'eau et on les a installés dans un sous-sol où ils ont attendu pendant plusieurs jours sans savoir ce qui se passait. On leur a finalement dit qu'ils allaient travailler dans une ferme où ils s'occuperaient du nettoyage et de toutes les tâches ingrates. C'était des gens qualifiés pour occuper d'autres emplois. Voilà un exemple de tromperie. Cette situation est préoccupante en elle-même car elle démontre que les personnes n'ont pas choisi librement de venir au Canada. Maintenant, quelqu'un les contrôle et on retient vraisemblablement leur salaire. Au cours de notre enquête pour trouver des chaînes invisibles, nous avons obtenu des copies de certains contrats qui sont utilisés par des employeurs au Canada et qui ont été examinés par l'Agence du revenu du Canada. Selon un des fonctionnaires qui les a examinés, certaines clauses faisaient carrément penser à de l'esclavage. Selon ces clauses, le travailleur n'avait pas le droit de toucher au salaire qu'il avait gagné avant la fin de son contrat. Imaginez-vous si nous travaillions dans les mêmes conditions. Prenons mon cas, par exemple. Je ne gagnerais pas un sou comme professeur de droit tant que l'année ne serait pas entièrement terminée. Comment ferais-je pour régler toutes mes dépenses courantes? Maintenant, de toute évidence, je dépends de quelqu'un d'autre. Ensuite, évidemment, la seconde clause de certains de ces contrats viserait à limiter les déboursements. Donc, ils enlèveront tout ce qu'ils peuvent imaginer. D'accord? Les repas que la personne prend, l'endroit où elle couche, même si c'est un plancher malpropre, comme dans le cas de l'affaire Elmville 11, sont facturés de façon rétroactive aux travailleurs et encore une fois, le tout est expliqué pour laisser croire aux travailleurs qu'il s'en sortira. Mais en réalité, c'est tout le contraire qui se produira. En outre, les menaces comme celles d'expulsion sont monnaie courante et la plupart des trafiquants qui font la traite de personnes en vue de les soumettre au travail forcé au Canada ont échappé à des poursuites aux criminels parce qu'ils n'ont pas blessé physiquement les travailleurs et ils en sont conscients. Ils savent que s'ils franchissent la ligne, ils auront de sérieux ennuis, que cela constitue une aggravation de leur crime et qu'il sera ainsi plus facile de prouver qu'ils ont commis des délits. Une façon encore plus facile consiste à menacer les travailleurs d'expulsion en leur disant « Regardez, votre visa stipule que vous allez travailler ici. Maintenant, nous savons que c'est faux, car vous faites un autre travail. Je n'ai qu'à appeler l'Agence des services frontaliers du Canada et vous serez déporté. » Et pour ceux qui nourrissent l'espoir de mettre la main sur cet argent à la fin de l'année, c'est suffisant pour avoir le contrôle sur eux. Par contre, ils ont besoin d'aide. Encore une fois, le fait de ne pas savoir à quel endroit leur communauté se situe, d'être dans l'impossibilité de changer d'employeur, de laisser perdurer la situation, d'avoir peur de parler ou encore d'être isolé par l'employeur, tout cela constitue un autre facteur. On peut aussi considérer comme indicateur important le fait qu'ils vivent et travaillent au même endroit, souvent dans des conditions de vie inférieures à la normale. Pourquoi? Parce que nous devons nous rappeler que l'objectif de ceux qui font la traite de personnes en vue de les soumettre au travail forcé consiste à tirer le maximum de profit possible de ces hommes et de ces femmes qui sont entraînés contre leur volonté dans des situations de travail forcé. Ainsi, les cas de travail forcé dont nous avons entendu parler par la police au Canada englobent à peu près tout. Des personnes qui travaillent dans des restaurants dans la collectivité, à laquelle bon nombre d'entre nous participent, à celles qui travaillent sur la ferme et dans le domaine de l'agriculture, aux aides familiaux résidents. De nombreux cas de personnes œuvrant en vertu du programme fédéral concernant les aides familiaux résidentes et des personnes venues au Canada pour travailler comme gardiennes d'enfants ont été répertoriés. Et dans certains de ces cas, il est important de réaliser que les limites sont floues. Un cas que nous avons documenté portait sur une jeune fille mineure de 16 ans provenant de Saint-Vincent-et-les-Grenadines dans les Caraïbes qui est venue au Canada en pensant qu'elle serait gardienne d'enfants. Il se trouve que son employeur, son exploiteur, était une famille. Il ne s'agissait pas seulement d'un homme, c'était une famille au complet. Et au quotidien, nous pouvons dire qu'elle était victime de la traite en vue de la soumettre au travail forcé. Elle devait accomplir toutes les tâches ingrates dans la maison, travailler de longues heures sans salaire et la nuit, être agressée sexuellement par le mari, le père dans la famille. Elle était à la fois victime d'exploitation sexuelle et de la traite de personnes en vue de la soumettre au travail forcé. Nous voyons donc souvent des personnes qui sont exploitées sexuellement tout en étant forcées de travailler. Il ne s'agit pas uniquement de femmes et de filles. Il y a également des hommes qui subissent des menaces. Donc, ces signes avant-coureurs sont définitivement plus nuancés, selon moi, que lorsque nous avons commencé à parler de la traite de personnes il y a déjà plusieurs années. Nous réalisons que de nombreux trafiquants sont plus sophistiqués maintenant et qu'ils se rendent compte, par exemple, que le fait de confisquer les papiers d'identité représente maintenant un crime distinct et qu'il s'agit d'un indicateur utilisé par la police pour déterminer les méthodes de contrôle. C'est pourquoi ils peuvent parfois laisser à leurs victimes leurs papiers d'identité. Donc, nous sommes engagés dans une course constante pour essayer de mieux comprendre comment les trafiquants s'adaptent, mais c'est là où nous en sommes dans nos recherches sur ce problème.